C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Bon, la une ce matin, bien sûr, la pénurie de profs dans les écoles du Québec. Hier, on a vu les chiffres qui ont été fournis par le président de la Fédération québécoise des directeurs d'établissements, Nicolas Prévost. Grosso modo, il va manquer 5000 profs, temps plein, temps partiel dans les écoles. C'est énorme, là. C'est jamais vu. Et on sait que d'ici la rentrée, parce que chaque centre de service arrive à peut-être faire quelques embauches, ce sera un peu moins. Mais ce sont des enjeux importants. Alors, qu'est-ce qu'on fait devant cette situation? Le ministre Bernard Drinville, à qui on parlait hier matin, qui a, disons, lancé une controverse sur laquelle je vais revenir, doit faire face à cette réalité-là. On a beau embaucher des aides aux devoirs, on a beau embaucher de l'aide dans les cours, des assistants en classe, clairement un problème. Égide Royer sera avec nous, spécialiste en éducation. Il a, je pense, à partager avec nous des pistes de solutions, notamment faire appel, et il n'est pas le premier à le dire, j'ai beaucoup, beaucoup de courriels qui sont entrés hier qui allaient dans ce sens-là, faire appel à des étudiants qui sont en train de terminer leur bac en enseignement et qui pourraient peut-être déjà là commencer à jouer un rôle plus actif à l'école. On parle des professeurs, mais il y a également aussi d'autres catégories d'employés qui sont manquants, des employés, là, des pénuries importantes pour ce qui est, par exemple, des services de garde. Les écoles manquent cruellement de personnel. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, la polémique sur les causes de cette pénurie de profs. C'est documenté, on le sait, là. Il y a des jeunes qui arrivent pour enseigner, qui font un an, deux ans, trois ans, cinq ans et quittent le réseau. C'est un fait, là. Pas pour aller enseigner nécessairement ailleurs, quitter l'enseignement. Comment peut-on les garder? Comment peut-on faire en sorte que les conditions de travail soient satisfaisantes? Ce que j'entends beaucoup, je sais que c'est pas le discours syndical qui plaît le plus, mais c'est quand même ça. Des jeunes enseignants qui ont l'impression d'hériter des tâches les plus difficiles. C'est ce que Drinville a dit hier. Il a dit, je cite, c'est peut-être des classes qui sont moins exigeantes, qui le sont, mais peut-être moins que dans certains autres cas. Je sais, ça a été le tollé. Et c'est pas nécessairement le degré comme certaines classes, la composition de certaines classes qui pose problème. Mais on va se le dire, quand tu commences dans le métier, dans la profession, je m'excuse, mais la réalité, puis beaucoup de jeunes qui ont quitté m'ont écrit ça, là, t'es comme pas nécessairement prête à faire face à ce genre de clientèle. Premier constat. Le deuxième, l'idée des maternelles 4 ans du gouvernement, là, on s'est tiré dans le pied d'aplomb avec ça. C'est une promesse électorale. On n'avait pas nécessairement besoin de ça, puis on n'avait surtout pas les ressources pour s'occuper de mettre sur pied ce programme-là, puis que ça fonctionne. C'était pas une bonne idée. Dans le contexte actuel, on aurait pu faire les choses autrement. Et là, l'autre question, puis je le vois dans vos commentaires, là, des profs qui m'écrivent. Je vais vous le dire en toute franchise ce matin, pour moi, c'est insoluble. Je comprends la frustration des jeunes, je comprends les retraités qui en ont plein le casque. Drinville qui lance un appel aux profs en disant « Donnez-nous un peu de temps, revenez vers le réseau. » Mais on se retrouve avec un, on se le dit en toute transparence ce matin, là, avec un réseau d'éducation qui est en reconstruction. Les bâtiments délabrés qu'on a laissés à l'abandon pendant des années, qu'on a négligés, il faut les retaper, on est en train de le faire. La ventilation, je ne veux même pas repartir le débat là-dessus. Puis, des profs à la retraite qui partent, puis, comme dans beaucoup de domaines, l'incapacité de combler leur poste. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Je regardais pas plus tard que ce matin en France, dans le monde, on a le même problème, le même enjeu en termes de remplacement. Mais disons que la situation est dans... Je pense quand on regarde ça avec un peu de recul, pas un problème qu'on peut régler à court terme. Là. Puis quand j'entends, puis je dirais pas qui, puis je ferai pas de concours de personnalité là-dedans, là, mais tu sais, les solutions simplistes et rapides, là, puis des phrases creuses en disant « le ministre devrait faire ça », puis... Je comprends tout ça, là. Mais ça demande un plan à plus long terme. Puis c'est un plan qui aurait dû être établi il y a quand même un certain temps. Puis il y a des enjeux de négociation. Puis oui, il y a de la rigidité qui fait que des gens quittent un centre de service pour aller à l'autre parce que le centre A, c'est rigide. C'est du béton, c'est du ciment. Puis à côté, pas de problème. Des fois, tu peux te poser un certain nombre de questions là-dessus. Parlons maintenant des évacuations, incendies, feux de forêt dans les territoires du Nord-Ouest. C'est probablement l'opération d'évacuation et de sauvetage la plus importante dans l'histoire du Canada. D'ici midi, il faut vider Yellowknife. Je parle même pas des autres municipalités qui sont visées par ces mesures. Il y a eu un point de presse hier soir. On a confirmé donc qu'il y a 10 avions qui ont quitté jeudi, principalement, les gens se déplacent vers l'Alberta. Il y en a 22 de prévus pour la journée. L'échéance, je rappelle, c'est midi. Les feux seraient à peu près maintenant, dit-on, à 1 kilomètre de la capitale. Et ajoutons également que les flammes, c'est carrément un enjeu important, mais c'est la fumée, encore une fois. Puis il y a des gens qui quittent, qui témoignent que depuis 3-4 jours, c'est complètement irrespirable dans ce secteur-là. Et là, ce qu'on a établi près de Yellowknife, c'est ce que j'appelle des postes stratégiques avec une alimentation en eau. Ce sont des, en termes de quantité, d'une pression incroyable qui va être exercée pour permettre finalement de combattre comme ça les incendies. Je regardais les détails des équipements. Sérieusement, c'est impressionnant de voir l'effort qui est déployé tout autour de la capitale. Puis là, les gens quittent. Ce que j'entends, c'est qu'on va pas les forcer, là, mais on va les convaincre, disons, à coup d'arguments pour qu'ils puissent quitter. Puis il y a aussi des mesures qui sont prises en Colombie-Britannique, notamment dans la ville de West Kelowna, où on a décrété l'état d'urgence. Je termine le volet environnemental et appelons ça événement météo extrême. Du côté de Maui, d'abord, le chef des mesures d'urgence a quitté. Il a fait un point de presse hier en disant « Voici pourquoi nous n'avons pas activé les sirènes, les alertes, et qu'on n'a pas envoyé un message aux gens quand les flammes intenses, poussées par des vents majeurs, se dirigeaient vers le centre de la ville. » Puis je rappelle que c'est 2000 structures de toute nature qui ont été complètement rasés par les flammes. Et l'explication qu'il donne, c'est que quand on entend à Maui une alarme, c'est une alarme pour un tsunami. Et quand tu as une alarme pour le tsunami, les gens se dirigent vers les montagnes, ce qu'il fallait pas faire dans ce cas-là. Fallait plutôt faire le phénomène inverse, se diriger vers les plages, puis essayer de s'éloigner du feu le plus possible. C'est ce qu'il a donné comme version. Ça a été plus ou moins cru. Et au total, donc, le nouveau bilan fait état de 111 personnes qui ont perdu la vie. Et il y a une série d'enquêtes concernant, justement, comment préparer les villes. Et c'est vrai pour tout le monde, là. Comment s'adapter? Quelles sont les mesures qu'on doit prendre dans le cadre de ces changements climatiques? Encore en fin de semaine, vous avez Hilary, qui est un ouragan qui va toucher le sud de la Californie. En France, je voyais ce matin qu'on se prépare pour un week-end de canicule, probablement dans le sud, des températures au-dessus de 40 degrés. Et donc, un été très chaud dans plusieurs endroits, plusieurs régions en France. Et aussi, pour à cette date, ce moment de l'année, là, au mois d'août, c'est rare qu'on a des températures comme ça, aussi fortes. Si vous êtes du genre anxieux, je vous conseille fortement d'éviter d'aller voir vos placements. Si vous avez, par exemple, des actions, si vous avez des placements comme à la bourse, les nouvelles économiques sont pas très bonnes depuis quelques jours. Je regarde du côté des marchés, c'est un effondrement, Wall Street, les indices, et on est vraiment là dans des pertes importantes sur une courte période de temps. Les taux d'intérêt ont augmenté aux États-Unis. C'est du jamais vu depuis 2002. On ne pense pas qu'au Canada, il va y avoir une pause. Si on est chanceux, lors de la prochaine décision de la Banque du Canada, il n'y aura pas d'augmentation. Puis je le disais hier matin, un des enjeux, c'est de dire, est-ce que les taux actuels peuvent nous amener un niveau d'inflation à 2%, ce qui est la demande de la Banque centrale, ou si ça va prendre encore une augmentation additionnelle. Et ça, on le sait, là, ça prend du temps pour mesurer l'impact dans les paiements hypothécaires et dans les paiements de prêts auto ou encore les marges de crédit. Donc, les taux d'intérêt sont élevés, le rendement des portefeuilles est fortement à la baisse et je voyais ce matin, là, sur les marchés à Hong Kong, on anticipe une crise en Chine importante. Il y a un taux de chômage. D'ailleurs, les Chinois, un peu fidèles à leur image, ont décidé de ne plus publier de résultats de chômage concernant les jeunes, les moins de 30 ans. Où le taux de chômage, le dernier connu, était absolument élevé. Et là, ce qu'ils se disent, ben non, on arrête de parler de ça. On est mieux de pas trop partager. Donc, situation économique assez pour cette semaine du mois d'août là. C'est pas une semaine très très performante. Au contraire. Bon, je vais vous parler de la société d'assurance auto. Officiellement, je suis pas allé vérifier là. Je le dis en toute honnêteté. La SAC prétend que ça va beaucoup mieux. Que les disons qu'on est capable d'obtenir un rendez-vous dans des délais qui sont raisonnables. Il faut toujours s'entendre sur la notion de raisonnable. Moi, j'ai des propriétaires de VTT qui ont bien de la misère à obtenir des rendez-vous. Mais c'est sûr que c'est moins pire que c'était. Mais je rappelle là que tout ça devait fonctionner en février, là, qu'on est rendu au mois d'août. Et entre autres, vous avez la presse ce matin qui nous dit que des étudiants étrangers ont de la misère à obtenir des services avec les cartes d'assurance maladie. Fait que je suis pas certain que business as usual à la société d'assurance auto. Également, il y a notre ami Daniel Renault qui nous apprend qu'il y a un policier de la police de Montréal, du SPVM, qui a été suspendu avec solde, et ça fait quelques mois, là, c'est depuis le printemps, parce qu'on l'a vu avec le parrain ou ancien parrain de la mafia montréalaise, Leonardo Rizzuto. Je pense que c'est encore lui, là, mais bon. Alors, le policier s'est retrouvé dans un événement avec Rizzuto puis d'autres individus connectés au monde du crime organisé. Pis c'est un policier du poste 23, ça, c'est Hochelaga-Maisonneuve. Évidemment, il n'est pas identifié, fait l'objet d'une enquête interne. Il était avec sa conjointe, puis c'est un événement familial. Mais là, je suis toujours, moi, prudent dans ça. Il a été vu par d'autres policiers. Alors, il faisait quoi? Tu sais, des fois, là, tu te retrouves dans un endroit, puis tu sais pas qui va être là. Est-ce qu'il le savait? Pas. Quels sont ses liens? Alors, il y a une enquête interne, mais des fois, ça peut être plate, mais ce sont des coïncidences comme ça qui arrivent. Je sais pas si vous avez vu les citoyens du quartier chinois de Montréal qui sont en colère et qui disent, là, nous, dans le Chinatown, là, on n'a rien contre les itinérants. On sait qu'il y a un refuge qui ferme. Mais on est tanné de la violence. Et c'est vrai, c'est pas strictement, puis je vais reprendre des termes très clairs, là. C'est pas une question de nuisance. C'est une question de violence à bien des égards. Et tous ces gens qui souffrent, consomment, psychosent, et j'en ai vu beaucoup durant l'été, puis pas juste dans le centre-ville, là. C'est sûr que ça dérange. Alors là, on sait qu'il y a un refuge qui doit fermer, on va récupérer les gens. On a fait un bon débat cette semaine avec les commissaires, mais intéressant. Je veux aussi vous parler du projet de loi 25, là, la loi 25, qui vise à lutter contre l'hébergement touristique illégal. Appelons ça un chat, là, la loi Airbnb. Il y a des mesures qui entrent en vigueur le 1er septembre. Ce que je comprends, c'est que Airbnb, comme Facebook, comme d'autres multinationales sur les réseaux sociaux, collaborent pas pantoute. Qu'est-ce qu'on leur demande, dans le fond? On leur demande de s'assurer que les gens qui mettent une petite annonce ont un certificat d'enregistrement. Pas comme on a vu là quand il y a eu la crise là avec des numéros bidons. On leur demande donc de garder ça en archive et de s'assurer que le numéro est conforme. La ministre Caroline Proulx sera avec nous tantôt pour parler de ça. Et ça veut dire qu'on a l'intention de faire des vérifications. Mais là, vous connaissez le niveau d'arrogance de ces plateformes-là, qui veulent rien savoir et qui disent... je pense qu'ils répondent même pas aux appels. On fera le point tantôt. Et en parlant d'arrogance, je comprends que les compagnies aériennes ont le droit, mais la Cour suprême a décidé d'entendre donc les Air Canada de ce monde qui contestent la Charte des droits des voyageurs pour indemniser en cas de retard ou de perte de bagages. Sérieusement, là, ça a pris tellement de temps à Marc Garneau pour se réveiller et, disons, botter le derrière de l'industrie. Ça a été long, là. Je veux dire, des amendes ridicules, un processus long. On commençait à avoir certaines mesures qui se comparaient à l'Europe. Puis, il y avait humblement, là, il y avait, je pense, des balises intelligentes. Mais bien sûr, les compagnies ne veulent rien savoir. Et la Cour suprême va être appelée à se prononcer. Alors, et évidemment, on est dans un débat de compétences. Moi, je reconnais les droits des entreprises de porter plainte. Mais, puis là, je sais que beaucoup d'employés d'Air Canada nous écoutent le matin, là, quand je voyage, j'en rencontre beaucoup, là. C'est pas la qualité du personnel. Je parle de l'attitude de l'entreprise, moi. C'est une entreprise qui est, disons, arrogante, OK? Quand ça allait mal pendant la pandémie, là, le fédéral a fait le chèque. Michael Rousseau et les autres ont encaissé des salaires plus raisonnables, mais ça n'a pas été long qu'après, là, ils se sont rattrapés. Alors, on verra comment la Cour suprême va évaluer ça. Et aussi, ce matin, on va revenir sur la situation à Port-au-Prince. Il y a eu 30 morts dans des attaques d'un gang contre un quartier de la capitale, et ça fait des mois, pour ne pas dire plus, que c'est une violence absolument inouïe des gens qui quittent pour ne plus jamais revenir dans la capitale. Il y a eu ce point de presse d'une arrogance d'un des leaders qui dit « si les forces étrangères débarquent, nous allons lutter ». Alors, à suivre évidemment ce qui se passe, et aussi on va regarder avec un expert plus tard cette situation vraiment, vraiment toxique et dangereuse en Haïti.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Le 1er septembre, il y a des nouvelles dispositions qui entrent en vigueur concernant l'hébergement, l'offre qui est formulée sur des plateformes, ce qu'on appelle Airbnb, là, pour qu'on se comprenne bien. Et on va voir un peu comment ça se passe, parce qu'on va se souvenir quand la ministre Caroline Proulx était intervenue. Les gens, effectivement, mettaient un numéro sur la plateforme, mais on s'est rendu compte que c'était des numéros bidons qui n'étaient pas liés à des inscriptions véritables. La ministre du Tourisme est avec nous, Caroline Proulx. Caroline Proulx, bonjour.
Bonjour, Sarkin.
Bon, 1er septembre, officiellement, les mesures entrent en vigueur. Je regardais la liste, donc il faut qu'il y ait un certificat d'enregistrement, il faut que ça soit un numéro valide, et il faut que la plateforme s'engage à vérifier le numéro.
Ouais.
Ça, ce sont les trois principaux engagements.
Ouais, ça, c'est dur. Pas facile, hein? Pas facile pour Airbnb. Et là, cet été, je sais que vous étiez en vacances, mais ils ont tenté de mener une campagne de relations publiques qui, d'après moi, a complètement foiré pour Airbnb, où ils demandaient essentiellement deux choses. Un, c'est pas le job de Airbnb de vérifier les annonces qu'ils publient en ligne. Ça devrait être la job des fonctionnaires du gouvernement du Québec, ceux du ministère du Tourisme. C'est non. On leur a dit, vous allez être imputables, vous allez vérifier. Mais la deuxième affaire qui ont sorti la semaine passée, M. Arcan, c'est... Hey là, Mme Proulx, là, si au 1er septembre, là, vous repoussez pas la date, il va y avoir une déstructuration de l'offre. Il y aura plus d'offres de Airbnb au Québec parce qu'on n'est pas capable de se soumettre à votre loi parce que c'est beaucoup trop rapide. Nous, les géants du web, là, on n'est pas capable de travailler avec notre plateforme pour finalement remplir trois champs. Alors, deux choses que je réponds à Airbnb. Vous êtes imputable. Votre job, c'est de mettre des annonces qui sont valides en ligne. Puis deux, vous dites qu'il va y avoir une déstructuration de l'offre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous autres, parce que partout au Québec, il y a d'extraordinaires hôteliers qui vont accueillir des touristes. Puis
trois questions. Ouais. La première, est-ce qu'ils demandent un report ou ils veulent l'abolition de ces mesures-là?
Ils veulent un report. Ils sont pas prêts qu'ils disent.
Ils veulent un report jusqu'à quand?
Oh, c'est indéterminé parce qu'ils veulent pas faire ça manuellement. C'est beaucoup trop complexe pour Airbnb. Alors, eux, Expedia, qui m'a envoyé une lettre également, me disent, on n'a pas le temps, on n'est pas prêt, il va y avoir une déstructuration de l'offre. Alors, ils demandent un report, mais ils n'ont pas donné de date.
OK. Êtes-vous prête à accorder un report?
Pas en tout. Zéro. 1er septembre, c'est ça. Ça fait 2 ans que je vous avertis. On a eu 7 rencontres avec toutes les plateformes depuis l'adoption du projet de loi 25. 7. En plus de la correspondance, en plus d'une question-réponse, en plus d'un aide-mémoire, on les tient littéralement par la main, puis ils nous disent qu'ils sont pas capables.
Alors, est-ce que ça veut dire que techniquement, là, à partir du, mettons, 2 septembre, quelqu'un qui est au Québec qui voudrait afficher une offre pourra pas le faire?
Il peut le faire. Mais il va falloir qu'il soit conforme aux règles établies par le projet de loi 25.
Oui, mais si Airbnb applique pas les règles...
Il va avoir des amendes. Il va avoir des grosses amendes.
C'est ça que je veux comprendre, là. Ça veut dire que si Airbnb prend les propositions, enfin les offres du Québec et que c'est inscrit de façon non conforme, vous allez imposer des amendes.
100 000 par annonce. 100 000 par annonce illégale sur toutes les plateformes transactionnelles au Québec... 100 000 par annonce. J'ai des petites nouvelles pour Airbnb, là. Il y a plus d'enquêteurs de Revenu Québec. Et 75 % des effectifs vont être dédiés à s'assurer que les plateformes diffusent des annonces qui sont légales. En gros, Revenu Québec va à la pêche aux gros poissons.
On parle de Airbnb. Il y a combien de plateformes qui doivent se soumettre à la nouvelle réglementation?
19.
Sur les 19, est-ce que tout le monde embarque ou tout le monde débarque?
La plupart embarquent, c'est les gros joueurs qui débarquent, les Expedia, les Airbnb. Il y a WeChalet aussi là qui nous demande un report, là, ça c'est québécois. La plupart s'y soumettent, les plus petits s'y soumettent, mais les gros manifestent la résistance. Comme dans n'importe quoi, les géants du web, dès qu'on ajoute une réglementation, dès qu'on ajoute des amendes, ils se braquent, puis ils disent non, nous autres, on n'embarque pas dans cette game-là. Et manifestent la résistance au nouveau cadre réglementaire.
Vous êtes ministre du Tourisme. Pensez-vous que si jamais il y a comme un boycott des propositions québécoises, des offres de location au Québec, ça va nuire à l'industrie touristique? Autrement dit, est-ce que Airbnb a un bout du bâton?
Pas du tout, parce qu'on a suffisamment d'hôtels à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières. Il y a encore des offres disponibles. Il y a des nouveaux hôtels qui vont se construire au cours des prochaines années. Il n'y aura pas une déstructuration de l'offre, comme le laisse sous-entendre Airbnb. Pas de miettes.
Voyez-vous, à part les hôtels, parce que les gens qui vont dans les hôtels, c'est une chose, puis les gens qui louent, par exemple, un appartement, un condo pour une semaine ou deux, là, c'est autre chose. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui peut prendre la place d'Airbnb au Québec et qui va se conformer à votre réglementation?
Ben, c'est-à-dire que les plus petits, il y en a qui sont là, qui veulent exister dans un cadre réglementaire qu'ils souhaitent respecter. Alors moi, j'invite ces plateformes-là québécoises à se conformer, à prendre l'espace qui pourrait être laissé par des Expedia ou encore des Airbnb. Il y a un beau marché pour les entreprises québécoises qui souhaitent faire de l'hébergement courte durée. Moi, je les invite à se faire. Il y a peut-être un marché qui va s'ouvrir et c'est peut-être profitable pour eux.
Quand on parle de Airbnb, avec qui vous négociez? Qui sont vos vis-à-vis?
2 représentants du Canada, dont un unilingue anglophone. Quand je les ai rencontrés au mois de mars, on est rentré en meeting, M. Arcan, puis la première chose qu'il m'a dit, je vous la donne en 1000, « Can we run this meeting in English? » J'ai été, non, on ne runnera pas ce meeting-là in English. On va le runner en français. Et voici ce à quoi je m'attends de vous autres.
Alors, est-ce que quelqu'un du Québec?
Oui, il y a quelqu'un du Québec. Il y a quelqu'un du Québec. Il y a une représentante du Québec. Ils étaient 2.
Okay.
Qui, elle, parle français. Mais ils ont eu l'arrogance, je vous dirais, en entretien privé avec la ministre, de me demander d'avoir cette conversation-là en anglais. Ce à quoi j'ai répondu non. Donc, on a eu une conversation avec Airbnb. Se disait très favorable au projet de loi 25, qu'elle allait collaborer, qu'elle allait être là. Mais honnêtement, depuis l'adoption du projet de loi, c'est des empêcheurs de tourner en rond. Puis moi, je leur dis clairement, il y a des enquêteurs, il y a du monde sur le terrain, on va vous débusquer. Puis le 1er septembre, c'est le moment où vous allez devoir vous conformer au carré de somme dans lequel vous les jouez.
J'imagine que vos enquêteurs surveillent déjà un peu. Là. On est quand même le 18 août. Là.
Ouais.
Est-ce que la plateforme est dans l'illégalité? Ben, elle va l'être le 1er après le 1er septembre, mais ce que vous voyez actuellement, il n'y a rien qui se conforme à la réglementation?
Ben, c'est-à-dire que quand je leur ai dit au mois de mars, je vous donne une semaine pour tirer vos annonces illégales, rappelez-vous, ils l'ont fait en 24 heures, ils ont retiré. Fait que ça va être intéressant de voir au 1er septembre, il y a des annonces qui sont encore illégales, M. Arcand.
Il y a encore des numéros bidons, là?
Ah oui, il y a du 0000, on les voit encore.
OK.
Laissez-moi pas croire que Airbnb pense qu'un 0000, là, c'est légal. Faites-moi pas croire ça. Fait qu'au 1er septembre, ça va être très intéressant de voir, et les équipes de Revenu Québec sont prêtes, le ministère du Tourisme est prête, la ministre est prête, on va examiner de
mais
très
ça va finir en bataille. Ils vont faire une cause type sur une amende, ils vont la contester, puis ça s'en va direct devant les tribunaux.
Ouais, mais on leur a demandé d'avoir un représentant au Québec justement pour signifier les amendes qui nous traînent pas avec une compagnie qui est basée dans un paradis fiscal. Et ça, d'ailleurs, ils aimaient pas ça au projet de loi. On leur a dit, tu vas avoir un représentant au Québec. Parce que quand on veut te signifier une amende, on veut avoir quelqu'un au bout du fil. Ça, ils s'y sont conformés. On a eu la liste, le sur 19, il y en a 17 aux dernières données qui ont un représentant au Québec, des firmes d'avocats et des firmes d'avocats et des firmes d'avocats.
OK, c'est le représentant, c'est...
Des firmes d'avocats.
J'ai déjà vu une association pharmaceutique dont le représentant, le vrai représentant, c'était une boîte de relations publiques.
C'est extraordinaire.
C'est pratique dans ces cas-là. Bon, OK, alors on va surveiller ça avec Airbnb. Deuxième chose, l'anneau au stade olympique, là.
L'anneau technique.
L'anneau technique. Bon, on va-tu réparer? Qu'est-ce qu'on fait avec le stade?
Bon, voilà, on va le réparer. En fait, on a eu donc l'annonce récemment que, selon les règles de la Régie du bâtiment du Québec, l'anneau technique, on devait le changer. Pourquoi? Parce que les normes évaluées en 1976 ne sont plus les mêmes. Donc, la capacité portante de l'anneau technique ne répond plus aux normes de la Régie du bâtiment du Québec. Donc, on doit le changer. La bonne nouvelle, c'est qu'on a lancé un avis d'intention. Personne n'a donné, a levé la main. Donc, ce contrat-là va aller au consortium qu'on a déjà choisi par appel d'offres public, qui est Pomerleau-Canam, 100% québécois, soit dit en passant, le consortium, qui va donc faire le remplacement de l'anneau technique. Dans l'anneau technique, il y a des haut-parleurs qui datent de 76. On va profiter de l'occasion également pour faire une mise à niveau donc des systèmes de haut-parleurs dans l'anneau technique.
Là, vous dites qu'il n'y a personne qui a levé la main pour faire ça.
Non. Parce que c'est une structure très particulière, le stade, là, vous le savez autant que moi. Là, quand on a lancé l'appel pour le remplacement de la toiture, Michel Labrec, à l'époque, m'avait dit, Caro, tu peux-tu extensionner un peu plus l'appel à l'international? On va faire des représentations pour voir si on peut avoir au moins deux ou trois soumissionnaires. Le seul qu'on a eu, c'est Pomerleau-Canam, qui est passé à travers un processus hyper rigoureux, qui a levé la main, qui est québécois, qui veut remplacer la toiture. Donc là, avec l'anneau technique, je suis très contente que ce soit Pomerleau, parce qu'on va pouvoir faire les travaux d'un coup, et vont remplacer donc l'anneau technique et la toiture du stade olympique.
OK, des questions de base. Ça va coûter combien, l'anneau technique et le toit?
C'est pas encore, parce que là, on avance dans le processus. On n'est jamais allé aussi loin. Donc, on va avoir le dossier d'affaires. Donc, combien ça coûte, qui va être déposé au Conseil des ministres, à la ministre, et dont on va discuter au Conseil des ministres d'ici la fin septembre.
Mais vous n'avez pas un ordre de grandeur. Quand on fait un appel, un avis d'intention...
Je
ne
peux pas le dire, parce que là...
Non, vous le savez, vous le voulez dire.
Mais c'est-à-dire que Pomerleau est en train de travailler dessus. Je ne suis pas pour scooper moi-même ce que je pense que ça pourrait coûter ou la fourchette dans laquelle je crois que ça pourrait coûter. Vous comprenez qu'il y a quand même une partie de réserve là, que je dois conserver pour terminer les travaux de l'équipe de Pomerleau.
Mais dans votre tête, là, ça serait à quel moment le début des travaux? Là, idéalement, mettons, là, puis à quel... Puis ça va prendre combien de temps?
Donc, si le dossier d'affaires est accepté au Conseil des ministres, donc on signe le contrat, on évalue la première pelletée de terre en juin. Ce qu'on comprend, c'est 2 ans démonter la toiture et l'anneau technique. Et c'est 2 ans pour l'installation de la toiture qui, soit dit en passant, va être souple et l'anneau technique. Donc, au total, on parle d'à peu près 4 ans démontage, remontage pour le remplacement de la toiture.
Et... est-ce que ça va affecter les activités au stade, selon vous?
Ben oui, ça va affecter, pas dans le pourtour, peut-être pas au début. Là vous êtes loin dans le processus, là, puis je veux pas me mettre la main dans le tordeur puis dire des inepties. Mais c'est sûr que ça va avoir un impact. Mais là, après ça, tu sais, on opère 120 jours par année. Là, c'est gênant. Là, c'est gênant l'inaction des gouvernements précédents de mettre des fleurs à l'entour du stade, mais pas changer la structure principale pour opérer 365 jours par année. On échappe Taylor Swift, là. au Québec. On échappe Taylor Swift, où les données préliminaires que j'ai eues, c'est 1 600 $ US par client qui achète un billet pour aller voir, en termes de dépenses touristiques, là, 1 600 $US, 5 jours, 44 000 spectateurs à 1 600 $US. Ben, c'est ça que le Québec perd parce qu'on n'a pas de toiture et que de plus en plus d'artistes veulent, pour une multitude de raisons, un, élire domicile pour une couple de jours dans une ville parce que ça repose l'artiste, et deux, c'est des retombées extraordinaires, et les artistes visent de plus en plus des stades. Il y a un phénomène là d'envie de produire dans des stands pour pouvoir s'installer quelques jours et aller chercher un maximum de clientèle.
Et je comprends que le son va être meilleur.
Oui. J'étais à Metallica. Faut dire que Metallica, là, c'est peut-être pas le meilleur sounding board, si vous me passez d'expression, là, pour avoir une qualité du son. J'ai perdu à peu près la moitié de mon ouïe la semaine passée, mais j'étais sur le sol. Fait que c'était quand même bien. Oui, il y a des enjeux parce que c'est une structure en béton, là, puis un peu de, dans le langage radiophonique, un peu de rebound, un peu de réverbération. Fait que là, on va changer ça à travers l'anneau technique, ouais.
Il y a un enjeu aussi au stade de tennis, au stade IGA. Avec les changements climatiques, ça veut dire autant la pluie que les chaleurs extrêmes. Là, c'est sûr qu'il y a un intérêt des promoteurs à une structure qui va permettre justement, là, peut-être pas un toit fermé 100%, mais êtes-vous ouverte à ça?
Ça fait quelques années là, qu'on en parle avec les équipes de Tennis Canada puis de l'Omnium qui se passe ici à Montréal. Le premier ministre était avec moi d'ailleurs dimanche dernier pour la finale. On en a reparlé à nouveau. Donc, on est en train d'évaluer tout ça là, pour avoir une structure qui pourrait accommoder. Mais il en reste pas moins que les joueurs de tennis aiment ça jouer en extérieur. Donc, à suivre le dossier pour Tennis Canada.
En terminant, il y a le dossier du Centre des congrès de Québec, là, qui, vous le savez, là, je ne vous apprends rien, l'organisation qui vous envoie une mise en demeure, tout ça parce qu'ils avaient un événement de prévu, vous avez annulé l'événement, tout ça. Regrettez-vous de les avoir foutus à la porte du Centre des congrès?
Absolument pas. Absolument pas. Oui, il y a une poursuite qui a été déposée. Là, maintenant, comme vous le savez, vous êtes un vieux journaliste dans le sens d'expérience et non pas d'âge, mais...
Les deux.
J'oserais pas aller sur le deuxième, mais le dossier est judiciarisé, donc on va voir la suite des choses.
Parce que c'est un rassemblement anti-avortement, puis vous vouliez pas...
Ce que je jugeais, c'est que c'est pas les orientations gouvernementales d'accueillir ce type d'événement-là. Donc, on va voir. Là, la poursuite a été déposée cette semaine.
OK. Même si on défendait, parce que ce que j'ai entendu, la liberté d'expression en disant que c'est pas l'État se mêler de ça, puis de louer, de porter un jugement sur qui fait quoi.
Bon, on va voir la nature de la poursuite. Okay. Je pense que vous avez eu l'occasion de la lire. C'est public. Alors, on va voir comment tout ça s'articule au cours des prochaines semaines. Bon.
Merci d'être venu ce matin.
Plaisir.
Caroline Proulx, la ministre du Tourisme et aussi ministre responsable de la région de Lanaudière.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Le ministre Bernard Drinville était avec nous hier. D'abord, il était pas capable de nous dire exactement. Il sera en mesure de le faire là, dans les prochains jours, mais il va manquer combien de profs à la rentrée scolaire. Le président de la Fédération québécoise des directeurs d'établissement est arrivé avec un bilan qui va changer, qui va évoluer, mais grosso modo, 5000 profs qui manquent à l'appel, ce qui est un record. La question, quel est l'impact dans les écoles? Comment la rentrée scolaire va se faire? Puis, est-ce qu'il y a moyen de trouver des solutions à court terme pour cette pénurie d'enseignants? Égée de Royer est avec nous, psychologue et spécialiste en matière de réussite scolaire. Monsieur Royer, bonjour.
Bonjour.
D'abord, comment on fait là pour faire, je dirais, pour trouver des profs compétents le plus possible d'ici la rentrée scolaire?
On est rendu dans un contexte où la nécessité est mère de l'invention ou suscite de la souplesse, là. Je regardais hier, la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Sherbrooke a pris la décision, et c'est très, très bien articulé, que les finissants, ou si vous avez les étudiants de quatrième année au baccalauréat d'enseignement préscolaire primaire, pourront faire leur stage en étant rémunérés et en passant, en établissant un contrat avec les écoles là, pour leur quatrième année d'études, avec un réajustement des cours qui pourront se faire là, en dehors des heures d'enseignement. Ça, c'est un exemple. Je pense que ça fournit un 30-35 enseignants. Et au lieu d'avoir des stages non rémunérés, on se retrouve dans une situation où ils vont rentrer en emploi en quatrième année, tout en étant bien encadrés. Ça, c'est un exemple de solution. On a vu l'apparition aussi des programmes courts, plus courts de formation, maîtrise qualifiante et diplôme de deuxième cycle pour amener à l'enseignement. Mais tout ça va dans le sens où il va falloir développer de multiples mesures de manière à établir un plan articulé pour éviter que ce soit un genre de psychodrame à chaque rentrée, parce que ça va se répéter encore pendant quelques années. Donc, il faut vraiment planifier là, sur une période de 5-6 ans pour diminuer cette pénurie d'enseignants. Là.
On sait qu'un des phénomènes, c'est l'arrivée dans le système de nouveaux enseignants, de nouvelles enseignantes qui, malheureusement, quittent après un an, deux ans, trois ans, quittent pas juste une école, là, mais quittent l'enseignement. Est-ce qu'on sait pourquoi puis comment on fait pour les garder dans le réseau?
On peut prendre ce problème-là de différentes manières. On peut le voir en amont. Écoutez, regardez, j'ai quelques cégeps qui ont développé un profil enseignement. J'ai 17 ans, mais au cégep, j'ai peut-être le goût d'enseigner. Il y a un profil enseignement où je vais avoir un peu plus de cours de français durant mon cégep. Et certains de ces cours-là vont être reconnus quand je vais rentrer à l'université en éducation. Je vais même avoir quelques genres de mini-stage pour savoir si vraiment j'aime ça travailler avec des jeunes. En clair, une meilleure orientation pour ceux qui vont en enseignement, c'est déjà quelque chose. Le deuxième aspect, c'est qu'en cours de formation, il faut être en mesure aussi là, de mieux accompagner nos jeunes, particulièrement dans le cadre des premiers stages. Et même lorsque les jeunes sont diplômés et deviennent enseignants, on se retrouve dans la situation où les classes ne sont pas... Il y a une forme d'iniquité présentement dans le système d'éducation au Québec. Écoutez, on ne se le cachera pas, si vous enseignez en ski-études, dans un programme de cheerleading-études, nommez-les, là, où il y a une obligation d'avoir un certain résultat scolaire pour participer à ces programmes-là, c'est pas la même chose que d'enseigner dans une école publique ordinaire de première secondaire, où le tiers, voire 40% des jeunes sont en retard d'apprentissage. Donc, et pourtant, c'est le même salaire, c'est les mêmes conditions. Et souvent, c'est les plus jeunes qui héritent des postes les plus difficiles. Et ça, c'est un problème qui a été mentionné à multiples reprises, et c'est évident que ça n'aide pas comme tel au maintien des jeunes dans la profession.
Bon, je veux vous entendre sur ce qu'a dit le ministre hier. Il a dit, et je résume un peu, là, on devrait, puis c'est la notion d'ancienneté qui est en cause, là, on devrait faire en sorte que les nouveaux profs qui débarquent aient, par exemple, comme mandat d'enseigner maternelle, 4 ans, maternelle, autrement dit, il reconnaît que c'est exigeant, mais que ce l'est moins que des classes avec une série de problèmes. Est-ce que c'est vrai que c'est plus facile d'enseigner à la maternelle qu'en cinquième année?
Non, je pense que le ministre a été mal informé là-dessus, ou a une méconnaissance du domaine. C'est vraiment la composition de la classe qui augmente le niveau de difficulté. Si je vous donne une classe de jeunes qui présentent des difficultés de comportement en cinquième année, et qui, avec plusieurs jeunes en difficulté d'apprentissage, probablement que c'est plus compliqué à enseigner là que dans une classe de maternelle où il n'y a pas de jeunes en difficulté. Mais néanmoins, ce qu'on observe, c'est que présentement, quand vous enseignez en maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, et entre autres première année, c'est que vous avez beaucoup de jeunes qui arrivent avec des besoins particuliers. J'ai environ 34-35% des gars, à peu près 22-23% des filles qui arrivent en maternelle 5 ans avec un problème, une forme de vulnérabilité, langage, comportement, nommez-les. Donc, c'est une erreur comme telle d'affirmer ça. Au contraire, ce que je recommande, moi, aux directions d'école, vous êtes une direction d'école primaire, là, puis à un moment donné, vous avez un ou deux enseignants qui sont non qualifiés, qui arrivent avec un baccalauréat. Ce que je dis souvent aux directions d'école, protégez maternelle, première, deuxième année. Parce que c'est des jeunes, c'est des années extrêmement critiques, et j'aime mieux avoir un gars qui a un baccalauréat en mathématiques puis qui enseigne en cinquième année ou qui enseigne en première secondaire que d'avoir un gars en mathématiques qui enseigne, je sais pas moi, en première année primaire, parce que c'est extrêmement important, exigeant les toutes premières années, ça a un impact durable.
Je veux bien comprendre ce que vous dites là. Vous dites en gros là, les profs diplômés expérimentés dans les premières années du primaire et les profs qui ont un bac mais qui n'ont pas une formation en enseignement, c'est moins à risque que ça, c'est moins dommageable si je prends l'image fin de primaire début secondaire.
Votre fils est en première année, vous avez quelqu'un qui a un baccalauréat en mathématiques pour lui enseigner, là, c'est vraiment courir après les problèmes. Votre fils est en première secondaire, puis ses cours de mathématiques sont donnés par un gars ou une fille qui a un bac en mathématiques, ça va être nettement, c'est pas l'idéal, ça va avoir nettement moins d'impact quand j'ai l'expression protéger, là, c'est que les directions d'école doivent avoir la marge de manœuvre pour affecter le personnel aux endroits qui sont peut-être les plus critiques au niveau d'exigence là, par rapport à la réussite des jeunes. Et première année est une évidence.
Mais est-ce qu'ils ont cette marge-là dans les écoles?
Là, on va retoucher probablement à la question de l'ancienneté et de l'affectation, mais surtout la question de l'ancienneté. Et ça, il faudrait diriger, discuter avec les fédérations des directions d'école. À ma connaissance, c'est pas si souple que ça. Et souvent, c'est parce que j'ai pas de prof en telle année pour enseigner. Est-ce que je vais m'organiser ou m'entendre avec mon équipe école? Est-ce que j'ai le pouvoir de le faire pour affecter, je sais pas, mon prof de sixième année qui a toutes ses compétences et qui a ses autorisations d'enseigner pour aller retourner en première année pour enseigner? C'est pas si clair que ça. Je voudrais vérifier avec eux autres.
Mais, M. Royer, je comprends que tout ça était prévisible. La pénurie de profs, ça n'a pas commencé la semaine passée, là. Mais il y a quelque chose d'assez troublant là, de voir que les gouvernements là, puis c'est pas une question de parti politique là, ont laissé les écoles être délabrées, ont pas investi, là sont en mode rattrapage, ils sont en mode rattrapage dans le recrutement, tout ça là tu le vois venir, le vieillissement des enseignants, le départ à la retraite, le manque, puis là je suis conscient que c'est dans d'autres secteurs aussi. Mais si l'éducation, c'est si important que ça, comment ça se fait qu'on a laissé aller le train comme ça?
Écoutez, comme disait l'expression, sur l'endos d'une enveloppe, on aurait pu s'asseoir tous les deux, là, même 10 ans. Regardez le vieillissement de la population, regardez le vieillissement du personnel enseignant, regardez le nombre d'enseignants qui quittaient la profession, le taux de réussite au niveau du baccalauréat en enseignement, l'augmentation ou le maintien de la clientèle scolaire, c'était prévisible comme le soleil, comme l'éclipse solaire de telle année qui s'en vient. Donc, je vous ai dit, sauf moi, la question de comment c'est géré, tout ce que je sais, c'est que la majorité des systèmes éducatifs ont le même problème présentement. Et c'est toute la valeur de la carrière ou du métier de professeur qui est en cause aussi. Écoutez, là, présentement, c'est toujours le même principe, là, tu sais, l'avion qui atterrit, c'est pas une nouvelle. L'avion qui s'écrase, c'est une nouvelle. Tout ce qui va mal en éducation, il y a énormément même dans le cadre des négociations, de l'image qu'on donne du métier. Écoutez, moi, j'ai 12 petits-enfants, là, dont la première est au cégep présentement. J'ai personne qui me parle d'aller en éducation. C'est vu de l'extérieur comme étant, mon Dieu, quel un métier. Écoutez, on manque de monde, il y a trop d'élèves dans les classes, il y a trop d'élèves en difficulté, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Il va falloir, à un moment donné, que la mission noble de cette profession-là, que la très grande majorité des enseignants exercent et sont fiers d'exercer, il va falloir aussi qu'on redore la profession. Et il faudra faire attention que si le fait de redorer la profession, c'est de diminuer le nombre d'élèves de classe ou d'augmenter le nombre de classes spéciales, on va de nouveau manquer d'enseignants.
La maternelle 4 ans, c'était peut-être pas l'idée du siècle.
Non, moi, sur le fond, la pertinence au niveau de la réussite éducative maternelle 4 ans, ça continue à être une mesure très pertinente, on l'a vu en Ontario. Néanmoins, c'est sûr que la décision politique d'ouvrir les maternelles 4 ans, c'est mon histoire de dos d'enveloppe de tout à l'heure, on avait fait quelques calculs en disant, mais coudonc, dans 4 ans d'ici, est-ce qu'on va avoir suffisamment d'enseignants? Des enseignants en surplus, parce qu'on a connu ça pendant des années, mais là, c'est pas le cas. Donc, c'était quelque chose... Écoutez, il y a de la planification quasiment simple à partir de données immédiatement disponibles là, qui aurait pu être faite, mais là qu'on pourrait faire. Écoutez, on se reparle tous les deux en 2030. Là, si on était capable d'articuler un plan là, qui tient compte de l'ensemble des variables là, qui touchent cette question de pénurie d'enseignants-là, il y aurait moyen de faire quelque chose. Mais ça va peut-être prendre un plan avec une dizaine de mesures différentes, là, dont entre autres celle de revaloriser le métier, mais aussi celle d'être en mesure d'attirer des jeunes. Faire le tour des classes de 4e, 5e secondaire, faire un peu comme du dépistage au hockey. Puis, quand t'as un bon dossier scolaire, toi, t'es en 5e secondaire, tu as pensé de devenir enseignant ou enseignante, on met en place un programme de bourse, on met en place une forme de mentorat, on valorise le fait que pas simplement des problèmes dans ce métier-là, mais il y a des choses très positives qu'on peut vivre, il y a des avantages à faire ce métier-là. Peut-être qu'on améliorerait, et on améliorerait un bassin totalement inexploité, c'est le rôle des hommes en éducation. Écoutez, il y a seulement 10% d'enseignants masculins au primaire, 34-35% au secondaire. Puis pourtant, j'ai des jeunes, présentement en 4e, 5e secondaire, qui sont valorisés cette profession-là. On pourrait se ramener à quelque chose. Là, on pourrait intéresser des gens qui ne le sont pas présentement si on intervenait beaucoup plus tôt.
M. Royer, merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Régis de Royer, psychologue et spécialiste en matière de réussite scolaire. Ça tombe bien. Je reçois ce matin la présidente de la FTQ. On va parler des négociations dans le secteur public, mais je veux vous entendre sur ce que vient de dire M. Royer là, sur le constat qu'il fait en éducation.
Écoutez, j'écoute M. Royer, puis j'ai honnêtement le même avec lui sur tout ce qu'il vient de nommer. Là. On est tout à fait conscient des enjeux en santé, des enjeux au niveau scolaire, et ce qu'il vient de nommer là, ben, c'est une réalité. Hein? On le savait depuis plusieurs années qu'on était pour vivre une pénurie, c'était clair. On fait des études démographiques dans les syndicats, dans toutes les sphères d'activité. Et vous savez, là, les endroits où vraiment il y avait une lumière rouge depuis environ 10 ans, on nous avait prévenu que ce qu'on vit au niveau de l'État québécois, tant en santé qu'au niveau de l'éducation, c'était pour arriver. Donc, ça devrait pas être une surprise pour personne.
Mais quand M. Royer dit qu'il y a une certaine rigidité, mm-hmm. dans les conventions collectives, qu'il faut trouver un moyen de donner aux directeurs ou directrices d'école la mm-hmm. possibilité d'assigner les profs aux bons endroits. Est-ce qu'il a raison de dire que c'est... Puis ça, on pourrait avoir la même discussion pour la santé que l'éducation.
Ah, c'est ce que j'allais vous dire, là, parce que moi, je fais attention. Vous savez, dans le front commun, c'est la CSQ qui représente les enseignements. Je sais que vous le savez, mais ça, j'ai parlé ce matin avec Éric Gingras, le président, puis je savais que je m'emmenais vous voir et je voulais qu'on s'entende. Premièrement, là, quand on parle de rigidité, on regarde toujours les syndicats en disant, bon, là, les syndicats, vous faites preuve de rigidité, vous manquez de flexibilité, c'est toute la même affaire. Je peux-tu vous dire, Monsieur Arcan, qu'on vous écoute, on écoutait hier le ministre Drainville, encore ce matin, parler de ces problèmes-là, du fait que ça n'a pas de bon sens, que je sois pas capable de choisir mon professeur, puis qu'encore là, l'histoire des maternelles, ce qui est assez incroyable comme témoignage de la part du ministre. Ceci étant dit, c'est-tu normal qu'on en parle ici, M. Arcan? C'est-tu normal qu'on en parle publiquement alors que les tables sectorielles en santé, présentement, pas en éducation, là, je vais arrêter de dire santé, en éducation, ne parlent pas de ça? Croyez-vous ça, là, que le ministre... Oui, on en entend parler dans les hautes sphères. La ministre du Conseil du Trésor nous dit qu'il va falloir regarder ça. La même chose, la
mais
part
de
ministre...
Mais vous parlez de quoi aux tables?
Bien, premièrement, on est encore aux priorités du gouvernement. Hein? C'est épouvantable, mais c'est ça. Là. Les dépôts ont été faits en décembre dernier. Ça avance à pas de tortue. On se le cachera pas. C'est extrêmement pénible comme processus. Et laissez-moi vous dire là que aux tables... Ils ont aucune idée où le gouvernement veut aller avec ça. On nous dit, l'ancienneté, c'est une problématique. OK, est-ce qu'on peut en parler? On en a des propositions. C'est pas là. Ça ne fait pas partie des priorités jusqu'à maintenant. Hier, on s'est fait dire, on n'a pas eu le temps de vous en parler encore. Mais si vous n'avez pas eu le temps de nous en parler encore, arrêtez de nous accuser partout comme quoi on n'est pas flexible puis qu'on ne veut pas.
Je veux pas prendre la place de la table de négo là, mais moi je.
On pourrait peut-être que ça irait mieux.
En tout cas, il y a une option là, mais ce que je veux dire, c'est que moi je reçois des leaders syndicaux comme vous là, oui. Puis tout le monde me dit là, la FIC, vous, oui. CSN, on a des propositions. Ok, c'est quoi les propositions?
Mais vous savez en négociation comment ça fonctionne. Hein? On échange nos cahiers, l'employeur a déposé son cahier, on a déposé le nôtre, et là bon, il va avec les priorités. Depuis des mois, je l'ai dit ici, je l'ai dit partout. Ce que nos gens, à chacune des tables de négociation, nous disent, c'est que l'employeur dit, on va passer à travers nos priorités ministérielles, gouvernementales, puis il y en a où on se rejoint, on a souvent des mêmes priorités. Donc, laissons-nous passer à travers nos priorités. Ben là, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on parle ici ce matin, ce qu'on parle depuis quelques jours dans les médias, ce n'est pas discuté aux tables de négociation. Monsieur Arcan, l'ancienneté, là, moi, je suis une vieille représentante syndicale. J'entends parler, on démonise l'ancienneté depuis des années. Ça fait des années que je dis, c'est pas parfait, ce principe-là. Absolument pas. Mais trouvez-moi un outil qui est aussi objectif que l'ancienneté. Moi, je me mets dans la peau des professeurs ce matin. Je me mets dans les peaux des travailleurs qui sont là depuis 15, 20, 25 ans, qui ont cumulé. Vous savez, là, c'est pas facile les conditions d'exercice d'emploi de notre monde. Et que là, imaginez-vous là que demain matin, on leur dit bon, ben toi, ça fait 20 ans que t'enseignes en troisième année, et là, tout d'un coup, on décide que tu t'en vas prof de chimie en secondaire 4. Puis
là, mettons que vous exagérez un peu. Là. Mettons que OK, mais mettons qu'on n'est pas un directeur démagogue à ce point-là. Là. Y a-t-il ouais. moyen de l'encadrer, là, ben d'encadrer oui. l'ancienneté, d'assouplir un peu ça pour permettre ce que dit Royer, qui a raison, que les profs les plus compétents, les plus anciens, qui ont de l'expérience, aient dans des endroits stratégiques.
Mais on peut-tu se dire aussi, M. Arcan, que les
tu sais, là, je fais des blagues, puis vous me dites un directeur des magas. Mais mettez-vous dans la peau d'un enseignant qui a l'expertise, qui a choisi, lui, de faire son bac en mathématiques, qui s'est bâti. Il en veut pas, lui, non plus. Il est d'accord pour rester dans sa catégorie, dans son expertise. Éric Gingras me disait ce matin, Magali, on fait un gros débat sur l'ancienneté. Là, je comprends que vous avez eu des gens qui vous ont écrit hier, des enseignants, mais de leur côté, c'est même pas une problématique criante actuellement. Ça ne fait pas partie des revendications de leur monde qui disent, moi là, si vous voulez que je reste en éducation, là, vous allez me donner un support au niveau des psy, des toutes les hogs, là, hein, il manque d'orthopédagogues, il manque de spécialistes, nos classes sont trop grandes. Il y a beaucoup, bon, vous dire, le salaire. Tu sais, M. Arcand, on va se parler franchement, vous et moi, là, tu sais.
OK, mais si vous voulez qu'on se parle franchement, là, on va en envoyer une autre.
Allez donc, allez-y, là.
Royer, un autre point. Vous me dites que vous êtes tous d'accord avec ce que je dis.
Répétez-moi ça, là.
OK. Comment j'arrive à convaincre quelqu'un d'aller en santé, en éducation, peu importe, là. Moi, j'entends les messages de la FIC. C'est pas vous, là, mais les messages de la FIC en disant c'est épouvantable, les conditions de travail. J'entends le discours, là. Moi, je suis un jeune, j'écoute ça, là.
Ah, ben non.
Pourquoi j'irais travailler pour le gouvernement? Comment combler les postes alors que le discours syndical est de me dire que les conditions sont affreuses, ça n'a pas de bon sens être enseignant au Québec ou être travailleur dans le réseau de la santé.
Là, c'est encore de la faute des syndicats, vous allez dire, parce que les gens ils vont pas. C'est que
non,
on décrit la réalité.
OK, mais vous, là, vous entendez ça vous donne-tu le goût d'aller travailler?
Absolument pas. Moi, j'ai un fils de 17 ans là, qui vient de finir son secondaire 5. Là. Mmh. On a eu cette discussion-là. Et il me dit, maman, je t'écoute, là, puis honnêtement, faut être fou. Faut complètement, hein, faut avoir envie de pas avoir de vie pour s'en aller travailler pour l'État québécois. Là, c'est la dernière chose que je voudrais faire. Donc, vous avez raison qu'actuellement, ce qu'on dépeint partout, c'est une catastrophe. Mais c'est la réalité. Tu sais, Monsieur Arcand, on arrive en négociation.
Mais
là,
pour corriger la catastrophe, il faut, entre autres, faire en sorte que des gens arrivent. Pour qu'il n'y ait plus de TSO dans les hôpitaux, ça prend des infirmières. Faut attirer.
Oui.
On peut pas dire que de part et d'autre, ça attire fort.
Vous avez raison. Complètement. Mais en même temps, qu'est-ce que vous nous donnez comme outil? Moi, là, je fais face à un gouvernement. On fait face à un gouvernement qui se présente en négociation en décembre dernier avec des offres de 9 % pour les 5 prochaines années, alors qu'on connaît tous la situation au Québec, là, économique, où on connaît tous l'inflation, où tout le monde subit cette pression financière-là, alors que déjà dans le réseau, vous venez de le nommer, c'est du TSO, c'est des classes trop grandes, mal adaptées. Et là, ben, on dit à nos gens, voici ce que vous méritez, 1,8 % d'augmentation. On va continuer à vous appauvrir dans les 5 prochaines années. Puis on va vous demander d'être motivé, puis d'en faire davantage, puis être capable d'être attirant. À un moment donné, là, vous savez ce qu'il parlait des garderies à 4 ans, puis M. Royer dit, on peut pas nier que c'est une bonne idée, hein, que ça donne des bons effets. Quand on est capable de le faire. T'sais, moi, je pourrais vous dire, là, ça serait peut-être le fun de peinturer mon sous-sol, mais si la maison est en feu, c'est pas le temps. Ben c'est ça qui se passe présentement. C'est comme si... Moi, là, j'ai toujours essayé d'avoir un discours positif, M. Arcand. Ça fait partie de ma personnalité. Je l'ai dit, je suis une éternelle positive. Mais là, moi, je suis arrivée en janvier dernier. J'ai fait mes devoirs. J'ai fait la tournée des établissements au Québec. C'est pas drôle, là. T'sais. On peut pas parler un discours qui est pas,
Non, non, mais je vous dis pas de mentir, là. Je vous dis pas de faire de la fausse. Je vous donne un cas.
Oui.
Au Minnesota.
Oui.
Ils ont de la misère comme ici à recruter tout ce qui est emploi présentiel. Gardien de prison, prof, infirmière.
Bon, ça, c'est comme ici.
Comme ici, pareil. Puis, c'est à peu près les mêmes genres de récriminations. Le syndicat a accepté, avec l'employeur qui est l'État, d'avoir un discours pour recruter en disant, les conditions sont pas le fun, mais si vous venez, et le fait qu'il y a un effet d'entraînement, ça va améliorer nos conditions. Donc, le syndicat, de la même voix avec l'employeur, a accepté de faire un message positif pour attirer du monde. Ça a marché un peu. Vous ne dites pas qu'ils ont réglé tous les problèmes.
Mais non, mais ça serait tellement le fun de pouvoir faire ça ici. Puis vous allez me dire, ben là, madame, vous avez deux discours. Non, parce que là, on est en négociation. C'est le moment, là. C'est le moment de s'asseoir et d'écouter. Premièrement, il y a un rattrapage à faire au Québec. Moyenne salariale des travailleurs de l'État québécois, 44 000 $ par année. Monsieur Arcand, là, c'est pas moi qui le dis, là. Les chiffres le prouvent. La pire province du Canada, après l'Atlantique, toutes catégories confondues. Les travailleurs au Québec sont les moins bien payés au pays. Donc, si on est capable d'attirer du monde, il va falloir qu'on on le fasse, ce devoir-là.
OK. C'est quoi le plan de match pour les dégos, là? On est rendu 18 août.
Ouais,
je comprends que vous ne parlez pas des vraies affaires encore, là.
Non, c'est ça. Moi, je vous le dis, peut-être que je vais arrêter de dire que je suis positive, peut-être que je suis un peu naïve, là. Mais moi, j'espérais vraiment, en juin dernier, le gouvernement nous avait dit on aimerait avoir des ententes de principe avant l'été. Moi, j'y ai cru. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas une volonté qui était réelle de la part du gouvernement. Pas de nouvelles offres, pas d'avancées, pas de discussion structurante. C'est beaucoup de discussions sur des enjeux qui sont pas prioritaires. Donc, on a vu que c'était pour être plus loin. Ensuite, on nous a dit, on fait un blitz cet été. Je mettrai pas tout ça sur la faute du gouvernement. De notre côté aussi, je pense que tout le monde avait besoin de prendre une pause cet été. Donc, ça a avancé dans certaines tables sectorielles. Il y a eu de petits avancées, d'autres pas du tout. Là, on arrive en septembre. Je vous le dis, moi, j'ai fait la tournée de notre monde. Mm-hmm. J'ai pas vu les 400 000 travailleurs, mais j'ai vu beaucoup de monde. Okay. Et ce qu'on me dit, là, c'est, Magalon, on peut pas attendre. On peut pas attendre parce qu'on n'arrive pas, parce que nos gens tombent comme des mouches. Le taux d'absentéisme des gens qui sont en maladie prolongée, c'est épeurant, M. Arcand. Et là, nous, on nous dit, c'est pas compliqué, là. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Moi, j'arrive pas. Je viens de renouveler mon hypothèque. J'ai une augmentation qui fait en sorte que je suis capable d'arriver. On est deux à travailler pour l'État québécois, puis on va dans les banques alimentaires. Pouvez-vous commencer par nous dire qu'on va avoir un salaire qui va respecter l'inflation, le coût de la vie? Première chose. Mais ça, je vous dirais que si on avait ces discussions-là demain matin, là, si le gouvernement revenait et disait, écoutez, là, on est très conscient qu'on signera pas à 9 % sur 5 ans, déjà, je pourrais vous dire que j'aurais espoir. Hier, on a eu une rencontre, le Front commun, avec la négociatrice en chef, avec qui on a d'excellentes relations. Elle nous a dit, l'intention du gouvernement, c'est d'avoir des ententes pour descendre. Mais là, il va falloir qu'on mette ça en accéléré.
OK, juste entre vous et moi, là.
Oui.
Les moyens de pression, on est vrai, là. On parle pas de...
23 septembre. Premier grand coup. 23 septembre.
C'est quoi le premier grand coup?
Ça va être celui-là. Ça va être une grande manifestation.
OK.
Qui va se faire à Montréal. On va partir du parc Jeanne-Mance à 13h, le 23 septembre. Et là, je vous dis, M. Arcand, il y aura beaucoup de monde. Beaucoup de gens qui seront présents. Et j'espère que la population qui mérite et qui souhaite avoir des services à la hauteur de ce qu'ils payent soit présent. Donc, je vous le dis, là, 23 septembre, je vous invite. Je voulais voir ça, ce sourire-là, ce matin. Mais je vous le dis, il y aura beaucoup de gens.
Oui.
On a besoin que le gouvernement nous prenne au sérieux. Vous savez, entre les branches, on nous dit que certains politiciens disent, oh, vous savez, les syndicats, c'est pas vrai qu'ils sont tellement la voix de leurs travailleurs, de leurs membres. Ben, on va démontrer au gouvernement à quel point on n'invente rien ici, là. C'est l'État où les gens sont rendus. Donc, 23 septembre, premier grand rendez-vous.
Merci d'être venu ce matin.
Merci beaucoup.
Je pense qu'on va se revoir bientôt.
Oui.
Magali Picard est la présidente de la FTQ.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Parlons de la situation en Haïti, parce qu'on le sait qu'il y a des groupes armés violents qui font régner la terreur dans la capitale Port-au-Prince, dans un des quartiers Carrefour Feuille. Depuis les derniers jours, il y a des attaques qui se sont soldées par la mort d'au moins 30 personnes. Étienne Côté-Paluc est avec nous. C'est un journaliste qui est basé en Haïti depuis 13 ans. Passage à Montréal. Étienne, bonjour.
Bonjour.
D'abord, qu'est-ce que vous savez sur les derniers événements, notamment dans ce quartier?
Bon, Carrefour-Feuille, comme vous l'avez dit, on compte au moins une trentaine de morts, mais c'est encore difficile de connaître les chiffres exacts parce que se rendre sur place, c'est pratiquement impossible pour les groupes qui comptent ces morts-là, que ce soit même la police qui a de la misère à se rendre dans ces quartiers-là. Donc, pour l'instant, c'est très inquiétant. Depuis dimanche, une flambée de violence dans ce quartier-là, surtout dans la partie est, qui permettrait éventuellement une nouvelle grande entrée sur une vingtaine de quartiers et probablement, possiblement, le centre de Port-au-Prince. Donc, c'est inquiétant pour tout le monde. Pour l'instant, à Port-au-Prince, on voit beaucoup de gens s'enfuir, que ce soit en province, comme on dit là-bas, donc en région, dans d'autres quartiers, dans certaines places publiques, il y a des stades qui ont aussi été mobilisés. On parle de au moins 5 à 10 000 déplacés, mais probablement plus. C'est toujours difficile à compter.
Pour les gens qui sont moins familiers, est-ce que toute cette violence, ces groupes armés sont concentrés à Port-au-Prince?
Pour 80%, oui, je dirais. En tout cas, en grande majorité, c'est surtout Port-au-Prince qui est concerné. Il y a un autre département. Il y a 10 départements dans le pays. Le département au nord de Port-au-Prince, celui de l'Artibonite, qui est également touché. Mais sinon, le reste du pays vit plutôt calmement, mais évidemment avec des incidents, mais aussi surtout un impact économique parce que toute l'économie du pays est pratiquement à l'arrêt depuis 3 ans. Il y a presque aucun touriste. Il y a presque plus de marchandises qui peuvent passer par Port-au-Prince, alors que c'était le centre de toute l'économie. Donc, pour l'instant, c'est assez difficile et on est encore plus inquiété parce que hier encore, il y a un nouveau quartier qui a été, il y a eu une flambée de violence encore à cause d'une guerre de, entre groupes criminels armés.
Il y a combien de groupes comme ça qui se battent sur le territoire?
Il y en a probablement autour de 200. Il y en a qui parlaient même jusqu'à plus de 1000, mais c'est difficile de dire là, exactement les membres. Mais ce qui se passe, c'est que c'est souvent des gens dans les quartiers qui ont moins de d'histoire et qui se reforment. Souvent après le séisme, il y a beaucoup de nouveaux quartiers aussi qui se sont carrément, qui sont sortis de terre. Et dans ces endroits-là où il y a moins de structures sociales établies, historiques, c'est plus facile pour des gens de prendre le contrôle. C'est-à-dire que dans d'autres régions, les autres régions du pays sont pas affectées parce qu'il y a des chefs, entre guillemets, ou des personnes âgées qui sont un peu des leaders spirituels de la zone qui sont là aussi pour s'assurer que les nouvelles personnes qui viennent s'installer ils font pas du crime ou font pas des... Il y a vraiment un contrôle social très établi dans le reste du pays. Donc, c'est pour ça qu'au moins, ça reste concentré dans des zones comme celle-là. Mais c'est quand même très difficile et ça fait que le pays va très mal depuis maintenant 3-4 ans à cause de tous ces blocages-là parce que ces groupes, ils contrôlent carrément des parties de la ville. C'est-à-dire que Port-au-Prince, il y a à peu près 3 arrondissements, 3 grands arrondissements. Il y en a un, Martissant, qui est carrément sous le contrôle de la police. La police a carrément abandonné le commissariat. Et là, c'est un des deux autres arrondissements qui est en train d'être attaqué. Pendant que le troisième, dont j'ai pas parlé, qui a fait une trêve depuis quelques semaines, justement, hier, je viens d'en parler, il y a eu un soubresaut là, de violence dans un autre quartier qui s'appelle Solino. On parle même pas de la banlieue, parce qu'en ce moment, en banlieue nord de Port-au-Prince, c'est aussi... Il y a eu aussi hier encore des attaques et des gens qui s'enfuyaient de ces zones-là. Donc vraiment, le gouvernement est au dépourvu. La police semble vraiment incapable de surmonter tout ça. Et le gouvernement n'a d'autres solutions sur la table qu'un appui par des forces étrangères.
Bon, justement, hier, je voyais un leader de gang qui faisait une espèce de point de presse avec des gens armés autour de lui, en disant d'un côté, on va répondre à une intervention de forces étrangères, à moins que ce soit pour nous aider à nous débarrasser du gouvernement. Oui, c'est assez particulier.
Il a mis ses conditions. On le surnomme Barbecue. Il est un des leaders de ces groupes-là au centre de Port-au-Prince. Et c'est le plus célèbre. C'est celui qui a des sanctions, entre autres, de l'ONU et du Canada. C'est le seul qui a des sanctions de l'ONU. Mais c'est le plus célèbre parce qu'il fait des conférences de presse, il utilise la communication. Hier, on ne l'avait pas entendu depuis longtemps, hier, il a fait une simili, un semblant de conférence de presse pour faire parler de lui un peu. Il a mis ses conditions. Il n'a pas dit qu'il était contre l'intervention, mais il a dit qu'il ne faut pas que ça se refasse comme ça s'est fait dans le passé. Il faut que ça se fasse au profit de la population. C'est un peu un discours politicien. Il sert vraiment de la communication pour faire valoir son
intérêt. Mais est-ce qu'ils ont un appui populaire ou c'est un appui basé sur la force et les armes?
C'est vraiment un appui basé sur la force et les armes, mais faut pas oublier aussi que souvent, pas tous, mais une bonne partie de ces leaders de groupes criminels armés là sont issus de quartiers défavorisés qui ont été aussi abandonnés par une grande partie de l'élite économique et politique du pays pendant des années et donc souvent des bidonvilles et donc ils se retrouvent à être aussi en plus d'être des personnes finalement à un passé criminel à être des leaders communautaires, c'est-à-dire qu'ils imposent leur force. Tu peux pas être contre eux quand t'es dans ce quartier là, mais c'est des gens qui ont grandi dans ce quartier là donc pour eux ils représentent la voix du quartier,
ils défendent leurs intérêts
et comme ils ont été abandonnés par l'État pendant des décennies, mais ils ont le beau rôle de dire qu'ils sont aujourd'hui victimes et qu'ils font seulement que défendre leur propre le bien-être de leur propre communauté. Après ça, évidemment, il y a différents niveaux, puis tous les groupes de gangs comme tels sont pas équivalents l'un l'autre et ils agissent différemment l'un l'autre.
Merci beaucoup. C'est un pays à suivre, encore une fois. Merci d'être venu ce matin. Étienne Côté-Paluc, qui est journaliste basé en Haïti depuis 13 ans. On va maintenant faire le point sur la météo. Ici, bien sûr, mais je regardais avec Gilles Brien ce qui se passe à Yellowknife. On sait que c'est une évacuation, une opération de sauvetage quand même majeure. Et on parlait de ces changements, température extrême, même le sud de la France qui va être frappé. Gilles, bonjour.
Bonjour, Paul.
On va commencer par Montréal. C'est une journée de pluie aujourd'hui.
Oui, de la pluie avec des risques d'orage aussi aujourd'hui, non? Avant que ça se dégage graduellement pour dimanche, ça va être pas mal plus frais, hein? On s'attend des 15-16 degrés en fin de semaine comme minimum. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est donc un front froid qui nous passe dessus aujourd'hui et là on est parti avec la pluie au moins jusqu'à 2-3 heures cet après-midi.
Bon, parlons de Yellowknife maintenant parce que bon, les feux de forêt progresse. Je voyais que c'était à peu près à 1 km. La population doit quitter d'ici aujourd'hui midi. Quelle lecture tu fais de la situation là-bas?
Ben là, le temps presse, là, parce que comme tu l'as dit, là, l'évacuation, c'est à midi, puis on parle d'une évacuation massive, là. On n'a jamais vu ça au Canada, là. Le territoire du Nord-Ouest, là, on a peut-être 40 000 personnes, et là, il y a 65 % de la population qui va être évacuée. En comparaison, au Saguenay, on avait évacué 16 000 personnes en 96 à cause du déluge. Là, on est dans des ordres de grandeur assez épouvantables en termes de problèmes de logistique. On sait que il y a 4 feux qui menacent le coin du Grand Lac des Esclaves. Là. Pour les gens qui connaissent peu Yellowknife, c'est la capitale des territoires du Nord-Ouest, quand même une ville de 20 000 personnes. Elle se trouve juste au nord du Grand Lac des Esclaves. Mais au sud, il y a des feux et la qualité de l'air est épouvantable. Là, présentement, avec les vents du Nord-Ouest qui vont se bâtir, ben le feu qui est pratiquement, il y en avait un à quelques kilomètres déjà ce matin, ils vont subir sûrement là, le panache, le maximum de pollution. On sait que c'est la pire des pollutions sur les particules fines là, de 2,5 microns. C'est vraiment la pire des pollutions dans le monde. Il y a peut-être 8, 9 millions de personnes par année qui décèdent de la pollution de l'air. Alors, c'est surtout ça qu'on craint, parce qu'à Chibougamau, on avait évacué avec des critères un petit peu inférieurs. Juste pour vous donner une indication, là, ce matin, dans le secteur de Yellowknife, la qualité de l'air dépasse 10 fois le seuil des alertes de smog. Là. L'alerte de smog, ici à Montréal, on va déclarer ça quand on a 35 microgrammes par mètre cube de polluants, mais là-bas, on est à 350 là, présentement, donc la population doit respirer de l'air très, très mauvais aujourd'hui, et il faut faire quelque chose, il faut évacuer dans ce temps-là.
OK, en terminant, je veux qu'on jette un coup d'œil vers la France. Là, je voyais ce matin que le sud va être frappé par une canicule, d'abord un peu inhabituelle à ce temps-ci de l'année, mais ça veut dire des températures qui peuvent toucher jusqu'à 40 degrés.
Oui, ça va être l'épisode le plus chaud de 2023 en France. On parle d'une canicule tardive, là, pas après le 15 août. C'est vraiment tard dans la saison. On va atteindre des températures peut-être 40-42. C'est le sud là, de la France là qui est menacé surtout. La France est composée de départements. Il y en a 96. Là, on a une vingtaine de départements qui sont en alerte orange. On sait qu'en France, on a un système très différent là, de la météo pour les alertes au Québec. Ici, on a copié les Américains. On a soit des veilles ou soit des alertes. C'est tout. On ne sait pas quoi faire avec ça parce que les gens reçoivent ça et ne savent pas trop que ça veut dire. Mais en France, on a des couleurs jaune, orange et rouge. Et des cartes de vigilance qui sont publiées comme ça en France donnent le droit à des maires de prendre des actions, là, d'évacuer parfois. Donc, présentement, c'est la dernière peut-être canicule de l'été, mais les températures vont atteindre près de 42 là, dans le sud-ouest de la France, là où on a les meilleurs vins en passant. Et ce qu'il y a de bon, Paul, aussi, c'est que la machine humaine va s'acclimater. Hein. Les dernières canicules de l'été font beaucoup moins de victimes que les premières en mai, juin. On se rappelle, en France, en 2003, il y avait eu 12 000 victimes là, d'une canicule épouvantable au mois d'août. Mais c'était les premières qu'on avait connues à l'époque. Okay. Donc, aujourd'hui, 42-43, c'est une canicule qui va s'étirer jusqu'à mercredi de la semaine prochaine. Donc, c'est quand même sévère comme canicule. Mais on est loin des températures records. La France a connu 46 là, il y a quelques années. C'est le maximum. On est très loin de ce qu'on a connu. Ici, au Québec, on n'a pas dépassé 38. Alors, quand on parle de 45, on a de la misère à se faire une idée.
Oui. Merci beaucoup, Gilles Brien, qui est météorologue.
C'est 23.